Vent furtif, vent fou.
Le cosmos, prit sa forme.
Lente, vivant, jus.
Bien, à toi.
Homme lié, pousse.
L'origine, fuse.
Le pur, ouvert.
En foudre.
Puis le cosmos
consista.
Jusqu'au.
Table.
Au viva.
Jusqu'à vous.
Bienvenue.
Lentum.
Outre de vie.
À l'origine, tu la vitesse.
Le pur mouvement furtif, le vent foudre, puis le cosmos décéléra, prit consistance et forme, jusqu'aux lenteurs habitables, jusqu'au vivant, jusqu'à vous. Bienvenue à toi,
lentum lié, poussif tresseur de vitesse.
Et c'est déjà la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. La semaine dernière, vous aurez le loisir d'entendre une émission sur la guerre, le salon des déserteurs, pour dire que la guerre c'est pas bien, et faire un teaser pour la journée de la radio. Si ces lectures, la tête en bas, vous ont laissé perplexe, ou si vous avez la nausée après autant de retournements de situation, courez donc retrouver le bon ordre d'un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Elimac. Merci à notre invité Laurent pour sa participation. En guise d'Excipit, la Horde du Contrevent d'Alain Damasio, lue par Edny Lorac. L'Incipit, à la page 703, inaugure l'aventure de la 34e Horde du Contrevent. Dans un monde balayé par les vents, ils ont été formés depuis l'enfance dans un seul but, parcourir le monde de l'aval vers l'amont, à contre-courant face au vent, pour atteindre le mythique extrême amont. Et en guise de virgule, Charivari tiré du bossu de Notre-Dame par Disney. Une musique qui célèbre le carnaval où tous les rôles sont inversés. Parce que, comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Caroline. Pour cette 10e émission, dont le thème est « à l'envers », nous avons pris les choses au sérieux et le fou est devenu le roi. C'est donc en toute fausse modestie que je prends la couronne et présente cette émission. Bon, alors au début, je voulais la présenter totalement à l'envers, parce que c'est moi qui ai proposé le thème, mais je me suis rendu compte que parler la tête en bas, c'est pas très très pratique. Donc je repasse la tête dans les nuages pour vous informer du programme. Pied au plafond et palindrome, miroir et temporalité inversée. Cette semaine, les yeux ont des oreilles, fait tout pour vous basculer, vous retourner, vous tourne-bouler, vous emberlificoter. Bref, vous aurez compris. Oragif, le papier-mâché en crâne, nous tient compagnie. Une fois n'est pas coutume, je vous pose la question à la fin de cette émission, et comme nous profitons des dernières bugnes de carnaval pour justifier ce renversement des pouvoirs, je vous demanderai quel était votre costume de Mardi Gras le plus réussi. Pour ma part, je pense que c'était le Chapelier Fou en version Tim Burton, c'était en 2010, qui en vérité reflète, je pense, ma nature profonde, et comme j'adore prendre le thé, je n'ai eu aucun mal à me glisser dans les ongles du personnage. Et vous, Caroline ?
Meilleur costume, donc 2010 également. À un couloir de l'endroit où tu étais habillée en chapelier fou, moi j'étais en reine des cœurs. Et c'était sympa. J'avais une robe médiévale prêtée par notre amie Marie, une couronne comme celle que tu portes à l'instant là. J'avais pris le manche à balai et j'avais collé dessus un espèce de un panneau qui disait Off with the heads, couper la tête. Voilà. Et je me baladais et je menaçais les gens de leur couper la tête. Très très fun.
Ça reflète tes instincts sanguinaires ou pas ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Camille ?
Bien, je ne vous connaissais pas à l'époque, mais j'ai aussi fait le combo L'Espée des Merveilles, et moi j'étais le lapin qui est toujours en retard, cherchez pourquoi. Et sinon, pour varier un peu, je crois que le pire que j'ai fait, pour le coup, c'était en ours, en plein été, et j'ai failli mourir de chaleur.
Laurent ?
Moi je crois que c'était quand même cette année, parce qu'en fait avant je crois que je m'étais jamais déguisé pour le carnaval.
Petite musique triste.
J'étais déguisé en koala, avec un magnifique costume que ma sœur m'avait rapporté d'Australie. Où t'as une capuche comme ça que tu rabats avec des petites oreilles et ça fait les yeux du koala et tout. Et j'avais décidé de surtout pas me raser avec à peu près la même pilosité qu'aujourd'hui. C'était le koala barbu.
Robin ?
Donc mes souvenirs de déguisement sont pas de Mardi Gras. J'ai un souvenir très très fort d'une soirée d'anniversaire où j'étais invité de dernière minute. C'était l'anniversaire d'un ami qui s'appelle Pierrick. Le thème c'était donc la lettre P. Et je suis arrivé pas déguisé et pas prévenu parce que voilà, c'est un peu à l'arrache. Et du coup, avant d'aller voir, avant de rentrer vraiment dans la maison et de voir mes potes, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire rapidement. Je suis rentré aux toilettes et je me suis entouré de PQ et j'ai fait PQ-man. Parce que ça commence par la lettre P.
En avant-dernière lecture, c'est Elimac, alias Camille, qui vous présente une société bien retournée dont je lui laisserai dire le nom qui ressemble à ce qu'il paraît à un hennissement. En effet, nous allons à la rencontre de chevaux qui sont raisonnables, vivent dans une société simple et paisible, régie par la raison, la vérité et l'exactitude. Ils n'ont même pas un mot pour dire mensonge dans leur langue. Ils sont les maîtres des Yahoo, des créatures sauvages humanoïdes qui vivent dans leur pays. Tiré des voyages de Gulliver par Jonathan Swift, traduction de Les gens de la Pléiade.
Voyage chez les Zouïms. À peine eut fait mon entrée que la jument se leva de son tapis et, s'approchant de moi, examina soigneusement mes mains et mon visage. Après m'avoir jeté un regard des plus méprisants, elle se tourna vers le cheval. J'entendis leur conversation, où revenait continuellement le mot « Yahoo ». C'était bien ce mot, dont je ne savais pas encore le sens, bien qu'il eût été le premier que j'eusse appris à dire. Mais je ne tardais pas à être pleinement éclairé à mon éternelle confusion. Car le cheval, d'un signe de tête qu'il me fit, en répétant ce mot « une », qu'il avait prononcé sur la route et auquel je donnais le sens de « suivez-moi », me conduisit jusqu'à une sorte de cour extérieure où se trouvait une autre construction à quelque distance de la maison. Nous y entrâmes, et je vis trois êtres de ces abominables que j'avais rencontrés juste après avoir touché terre, en train de se repaître de raves crues et de morceaux de charogne. C'était de la viande d'âne et de chien, comme je le sus plus tard. Quelquefois aussi, on leur donnait une vache morte d'accident ou de maladie. Tous trois étaient attachés aux poutres par de gros liens d'osier passés à leur cou. Ils tenaient la viande crue entre les griffes de leurs pattes de devant et la déchiraient avec les dents. Le destrier ordonna au petit cheval de bas brun qui était son domestique de détacher le plus gros de ces animaux et de le mener dans la cour. On nous plaça l'un à côté de l'autre, puis maître et serviteur comparèrent point par point nos deux individus, le mot « Yahoo » revenant constamment sur leurs lèvres. Mon horreur et ma stupéfaction furent inexprimables quand je constatai que cet ignoble animal offrait une image entièrement humaine. Les pattes de devant du Yahoo ne différaient de mes mains que par la longueur de leurs ongles, l'extrême callosité de leurs pommes et l'épaisseur du poil qui en recouvrait le dessus. Il y avait autant de ressemblances entre nos pieds, mais cela, j'étais le seul à le savoir. Les deux chevaux ne s'en doutaient pas, à cause de mes bas et de mes souliers. Et on pouvait en dire autant de toutes les parties du corps, qui ne se distinguaient que par leur pilosité et leur couleur, ainsi que j'ai pu le dire plus haut. Vers midi, je vis approcher de la maison une sorte de véhicule sans roue, remorqué par quatre Yahoo. Il transportait un vieux destrier de noble allure, qui descendit en posant sur le sol, d'abord les pieds derrière, car il s'était blessé le pied antérieur gauche dans un accident. Il venait dîner chez notre cheval, qu'il reçut fort civilement.
Ma vie est synonyme de casse-tête. Black M n'a pas retourné sa veste, il a retourné sa casquette. J'irai jusqu'à devant le chef d'État, à lui dire en face que je pense en faire des détails. Casquette à l'envers. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Je vais pas faire de cinéma, c'est désormais je ne vais frapper que là où ça fait mal.
Merci Elimac pour cette lecture équine qui ne sale pas de manque. En virgule, section d'assaut met sa casquette à l'envers. Ne cherchez pas le lien, il n'y en a pas. Si ce n'est que, dans la thématique à l'envers, ce groupe a du coup remplacé Vivaldi au pinacle de la musique baroque. Comme quoi, tout retourner n'a pas que du bon. Et c'est au tour de Mélie ou de nous lire un extrait qui passe aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, c'est-à-dire un palindrome. Alors, je vous rappelle que l'on échange les places aujourd'hui, donc Queneau est un inconnu notoire, et il sied donc de vous lire le plus connu des écrivains de palindrome, Stéphane Susanna, pour son palindrome lieu cerné, que vous pouvez retrouver sur formule@pluriel.net. Je vous en lis l'exact milieu au moment où ça bascule. Le verbe divisa, rêvait cet être bilatéral. Ce duo fédère si mal, car rauque, vin, retenu, trop mièvre, serti de verre mat, apparu dégarni. Agréé ce diadème minimal, unis-le ce récit, ça fera revue neuve. Rêver. Là, édite cet idéal, pacte né en gag et art à miroir, palindrome borné, lieu cerné, île, l'errant idem inutile se rime, servi les connèdes, mu de rage, me trace tel fier dialecte ou duo. Et ce laid reflet écarté m'égare du médian. Oh, ce livre se mire, ce lit uni, me dit. Narcelien, recueil enrobé mort, Nil. A priori, ma strate gagne sens et cap. Là, édité cet idéal rêve. Revue neuve, rare, factice réel. Si nul ami, ni même d'aide, créé. Gain. Rage, dur appât amer, rêve d'irréservé, importuné, terni. Aveu qu'arrache la misère de fou déclaré, ta liberté te crèvera si vide, brève.
Yaka, loup, yaka, loup, j'ai mis mon cas. Yaka, loup, mis mon cas. Yaka, loup.
Et parlant de palindrome, on n'a pas pu résister à l'envie de vous passer Kayak de Gérald Gentil, étant un des palindromes les plus cités de la langue française. Kayak, pas Gérard Gentil, faut suivre un peu. Dans le monde de la littérature, il n'y a pas que les romans qui marchent sur leur tête et qui prennent le thé au plafond. Et justement, notre prochaine lecture nous emmène dans ce lieu inexploré de la maison, le plafond. Alors non, il ne s'agit pas du passage de Mary Poppins d'Opéo Poppers. Soit dit en passant, sachez quand même que Supercalifragilisticexpialidocious dit à l'envers donne Dosiusalixpistifragilcalisuper, mais c'est tout de même allé un peu loin. Pour en revenir au sujet principal, c'est donc Annie Lorac, alias Caro, qui nous lit un poète qui ne sait peut-être pas d'Opéo Poppers, mais a expérimenté l'éther, la mescaline, le LSD et la psilocybine. Que des substances qui font décoller. Dans Plume, le héros éponyme se retrouve, dans le 12e et avant-dernier chapitre, au plafond. Alors non, Plume n'est pas le petit nom que Michaud donnait à son araignée.
Plume au plafond. Dans un stupide moment de distraction, Plume marcha les pieds au plafond au lieu de les garder à terre. Hélas, quand il s'en aperçut, il était trop tard. Déjà paralysé par le sang aussitôt amassé, entassé dans sa tête comme le fer dans un marteau, il ne savait plus quoi. Il était perdu. Avec épouvante, il voyait le lointain plancher, le fauteuil autrefois si accueillant, la pièce entière, étonnant abîme. Comme il aurait voulu être dans une cuve pleine d'eau, dans un piège à loup, dans un coffre, dans un chauve-bain en cuivre, plutôt que là, seul, sur ce plafond ridiculement désert et sans ressources, de redescendre eût été, autant dire, se tuer. Malheur ! Malheur toujours attaché au même, tandis que tant d'autres dans le monde entier continuent à marcher tranquillement à terre, qui sûrement ne valaient pas beaucoup plus cher que lui. Si encore il avait pu entrer dans le plafond, y terminer en paix, quoique rapidement, sa triste vie. Mais les plafonds sont durs et ne peuvent que vous renvoyer. C'est le mot. Pas de choix dans le malheur, on vous offre ce qui reste. Comme, désespérément, il s'obstinait, taupe de plafond, une délégation du Brain Club partit à sa recherche, le trouva en levant la tête. On le descendit alors, sans mot dire, par le moyen d'une échelle dressée. On était gênés, on s'excusait auprès de lui. On accusait à tout hasard un organisateur absent. On flattait l'orgueil de Plume, qui n'avait pas perdu courage, alors que tant d'autres, démoralisés, se fussent jetés dans le vide et se fussent cassés bras et jambes, et davantage, car les plafonds de ce pays sont hauts, datant presque tous de l'époque de la conquête espagnole. Plume, sans répondre, se brossait les manches avec embarras.
Et en virgule, c'était Lionel Richie qui dansait au plafond. Si vous n'avez pas vu le clip, il vaut le coup d'œil. So 80s. Retour vers le futur oblige, partons vers la science-fiction. Direction Hyperion. Non, pas le titan de la mythologie grecque. Non, pas le roman épistolaire de Friedrich Hölderlin. Non, pas l'épopée en vers de John Keats. Non, pas le poème roumain de Mihai Eminescu, ni le croiseur interstellaire de Starcraft, ni le séquoia à feuilles d'if. Non, direction l'Hyperion de l'unique, du grand Dan Simmons, publié en France en 1991 et écrit en 1989. Résumer un livre de Dan Simmons, c'est un peu essayer de faire rentrer l'Himalaya dans l'ENS. Il y a un petit problème d'échelle, mais comme on l'a dit, c'est pas la taille qui compte. Hyperion est loin d'être un énorme navet sectaire. C'est l'histoire de sept pèlerins désignés par l'hégémonie, confédération des planètes dominées par l'homme, pour aller trouver dans les tombeaux du temps le Gritch, sorte de colosse de métal qui passe pour avoir été un dieu. Vous n'avez rien compris ? Sachez seulement que Dan Simmons a reçu le prix Hugo pour ce bouquin. Et c'est Camille qui nous fait la lecture, traduction de Guy Abadia. Le passage que nous allons écouter est un dialogue entre Sol, le père de Rachel, et un médecin.
Comment est-ce possible ? Hurla-t-il à la figure de l'un de ses spécialistes, qui avait commis l'erreur de se montrer à la fois suffisant et condescendant avec le père de la jeune malade, et qui avait un crâne si dégarni que les traits de son visage semblaient dessinés sur une boule de bière. « Elle commence à rapetisser !» s'exclama-t-il, en saisissant littéralement par le col de sa blouse le pauvre homme qui reculait. Cela ne se voit pas immédiatement, mais sa masse osseuse est en train de diminuer. Comment peut-on seulement concevoir qu'elle puisse redevenir enfant ? Qu'en est-il de cette foutue loi de la conservation de la masse ? Le spécialiste avait remué les lèvres, mais il était trop terrifié pour qu'il en sorte un son. L'un de ses collègues, barbu, avait expliqué à sa place. « Voyez-vous, vous devez comprendre que votre fille habite actuellement... Essayez d'imaginer un espace local où l'entropie serait inversée. » Sol fit volte-face pour affronter le barbu. « Essayez-vous de m'expliquer qu'elle est simplement prisonnière d'une bulle de régression ?»« Pas tout à fait, » déclara l'homme en se massant le menton. « Pour choisir une analogie peut-être plus appropriée,
biologiquement tout au moins. Disons que chez elle, le mécanisme de vie et le métabolisme... Enfin, tout semble avoir été inversé et ridicule, coupa Sol. Si c'était le cas, ses fonctions de nutrition seraient remplacées par des fonctions d'excrétion. Elle régurgiterait sa nourriture, etc. Et que faites-vous de la sphère neurologique ? Inversez les influx électrochimiques et vous n'obtiendrez que de l'incohérence. Son cerveau fonctionne parfaitement, messieurs. C'est sa mémoire qui disparaît. Pourquoi ? Êtes-vous capable de me l'expliquer ? Le premier spécialiste avait fini par retrouver sa voix. « Nous ignorons la réponse à cette question, monsieur Weintraub, dit-il. Mathématiquement, l'organisme de votre fille ressemble à une équation à effet de temps inversé, ou peut-être à un objet qui serait passé au travers d'un trou noir en rotation rapide. Nous ne savons pas comment une telle chose a pu se produire, ni pourquoi ce qui est physiquement impossible est arrivé, en l'occurrence. »
En virgule, Alt J chantait Breeze Blocks, dont le clip est filmé entièrement à l'envers. À l'envers, à l'endroit, en haut ou en bas, s'il y en a une qui a bien perdu ses repères, c'est Alice. Non contente d'avoir traumatisé le paisible terrier d'un lapin albinos, c'est à ses chatons qu'elle s'en prend dans la suite, sobrement intitulée Alice de l'autre côté du miroir. Lewis Carroll, gentil professeur de mathématiques ayant un goût prononcé pour les jeux de mots et le nonsense anglais si particulier, y narre les aventures de la jeune fille, qui se retrouve dans un monde où tout se fait à l'envers. Pour avancer, il faut arrêter de bouger, courir pour faire du surplace, on est puni avant d'avoir commis et on saigne avant d'être blessé. Rien que ça. C'est Coraline qui lit. Oh, pardon, Caroline. Traduction, Henri Parizeau.
Je ne vous comprends pas, avoua Alice. Tout cela m'embrouille terriblement les idées. C'est ce qui arrive lorsqu'on vit à l'envers, fit observer la reine des l'air bienveillant. Au début, ça vous donne un peu le tournis. Lorsqu'on vit à l'envers, répéta Alice fort étonnée. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Mais cela présente un grand avantage, c'est que la mémoire s'exerce dans les deux sens. Je suis sûre que ma mémoire à moi ne s'exerce que dans un seul sens, fit remarquer Alice. Je ne suis pas capable de me rappeler les événements avant qu'ils n'arrivent. C'est une bien misérable mémoire que celle qui ne s'exerce qu'à reculons, fit remarquer la reine. Et vous, de quelle sorte d'événements vous souvenez-vous le mieux ? Osa demander Alice. Oh, des événements qui se sont produits d'aujourd'hui en 15, répondit d'un ton désinvolte la reine. Par exemple, en ce moment, poursuivit-elle, tout en appliquant un grand morceau de taffetas gommé sur son doigt, il y a l'affaire du messager du roi. Il est actuellement en prison, sous le coup d'une condamnation, et le procès ne doit pas commencer avant mercredi prochain. Quant au crime, bien sûr, il n'interviendra qu'après tout le reste. « Et s'il se trouvait qu'il ne commit jamais son crime ?» dit Alice. « Alors cela n'en irait que mieux, n'est-il pas vrai ?» répondit la reine, en assujettissant le taffetas gommé autour de son doigt à l'aide d'un bout de ruban. Alice était en train de commencer de dire « Il y a quelque part une erreur » lorsque la reine se mit à pousser des cris si perçants et si retentissants qu'elle ne put terminer sa phrase.
« Oh 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 !» criait la souveraine en secouant la main comme si elle eût voulu se la détacher du bras. « Mon doigt saigne oh !»
Alice dut se boucher les deux oreilles. « Qu'avez-vous donc ? » demanda-t-elle dès qu'elle crut avoir une chance de se faire entendre. « Vous êtes-vous piqué le doigt ?»«
Je ne me suis pas encore piqué, dit la reine, mais je vais me le piquer bientôt. Oh !»«
Qu'en pensez-vous que cela va vous arriver ?» demanda Alice, qui avait grande envie de rire. « Lorsque j'attacherai de nouveau mon châle, gémit la pauvre reine, la broche tout de suite s'ouvrira. Oh !»
Comme elle disait ces mots, la broche s'ouvrit brusquement, et la souveraine la saisit d'un geste frénétique pour essayer de la refermer.
« Prenez garde !» s'écria Alice, « vous la tenez tout de travers !»
À son tour, elle saisit la broche. Trop tard. L'épingle lui avait échappé et la reine s'était piqué le doigt.
« Ceci explique pourquoi tout à l'heure je saignais, voyez-vous bien » dit-elle souriante à Alice. « Désormais vous comprendrez comment les choses se passent ici. »«
Mais pourquoi maintenant ne criez-vous pas ?» demanda Alice,
tout en se tenant prête à se boucher de rechef les oreilles.
« Ma foi, j'ai déjà poussé tous les cris que j'avais à pousser, » répondit la reine.
« À quoi cela servirait-il de tout recommencer ?»
On peut toujours saluer les petits rois de pacotille. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers.
À l'instant, c'était Noir Désir qui nous le faisait à l'envers comme à l'endroit. Oui, les sous-entendus grivois, c'était pour la dernière émission normalement. Mais je me suis dit qu'il fallait un peu redresser l'audimat, bande de pervers. Et puis, je me suis dit que c'était bien de détendre un peu l'atmosphère avant de passer une lecture un peu plus dérangeante. Martin Amis a écrit en 1991 le roman Time's Arrow or the Nature of Offense, où l'on suit la vie d'un docteur allemand qui a été ou sera médecin à Auschwitz. En effet, l'auteur a eu la bonne idée, pour compliquer les choses, de renverser totalement la chronologie. Le héros pense donc créer une nouvelle race en transformant la cendre en chair, et les hommes ainsi créés partent en train vers des appartements et autres maisons où on les installe avec de magnifiques tableaux venus droit des entrepôts du Troisième Reich. Bizarre, hein ? C'est notre invité Laurent qui vous brouille l'esprit. Lecture en version originale.
Donc dans ce passage, on a la description du Zyklon B qui est utilisé pour ramener les Juifs à la vie, suite à quoi, dans le dernier paragraphe, on a la description des médecins qui fondent leur propre réserve d'or pour en créer des dents qui seront ensuite implantées dans la bouche des Juifs. I, or a doctor of equivalent rank, was present at every stage in the sequence. One did not need to know why the ovens were so ugly, so very ugly. A tragically burly insect 8 feet tall and made out of rust. Who would want to cook in an oven such as this? Pulleys, plungers, grates, and vents were the organs of the machine. The patients, still dead, were delivered out on a stretcher-like apparatus. The air felt thick and warped with the magnetic heat of creation. Thence to the chamber, where the bodies were stacked carefully and, in my view, counterintuitively, with babies and children at the base of the pile, then the women and the elderly, and then the men. It was my stubborn belief that it would be better the other way round, because the little ones surely risk injury under that press of naked weight. But it worked. Sometimes, my face rippling peculiarly with smiles and frowns, I would monitor proceeding through the viewing slit. There was usually a long wait while the gas was invisibly introduced by the ventilation grills. The dead look so dead. Dead bodies have their dead body language. It says nothing. I always felt a gorgeous relief at the moment of the first stirring. Then it was ugly again. Well, we cry and twist and are naked at both ends of life. We cry at both ends of life while the doctor watches. Clothes, spectacles, hair, spinal braces, and so on. These came later. Entirely intelligibly, though, to prevent needless suffering, the dental work was usually completed while the patients were not yet alive. The capers would go at it, crudely but effectively, with knives and chisels or any tool that came to hand. Most of the gold we used, of course, came direct from the Reichsbank. But every German present, even the humblest, gave willingly of his own store. I, more than any other officer, I knew my gold had a sacred efficacy. All those years I amassed it and polished it with my mind for the Jew's teeth.
Merci Laurent pour cette lecture. Ouais, dérangeante. Si vous avez l'esprit maintenant dans les limbes, c'est à cause des Pink Floyd qui viennent de vous chanter Empty Spaces. Aussi dérangeante que peut être l'hypothèse d'une chronologie à rebours dans Time Zero, c'est pourtant une théorie bien sérieuse que Pierre Bayard, romancier et essayiste français, applique, avec autant de professionnalisme que de dérision, à la littérature. Son ouvrage le plus clair à ce propos est peut-être Demain est écrit, un très court essai que je vous enjoins à parcourir. Mais c'est dans le plagiat par anticipation qu'il montre en quoi cette théorie peut être véritablement renversante. Lecture All by Myself. Curieusement, en effet, une forme de vol d'idées semble avoir échappé à la critique, celle qui concerne les emprunts faits par les écrivains, non pas à ceux qui les ont précédés, mais à ceux qui les ont suivis. Alors que le plagiat classique est régulièrement et justement dénoncé, le plagiat par anticipation ne retient que peu l'attention des lecteurs, même les plus attentifs. Il suffit pourtant de parcourir l'histoire de la littérature pour voir que ne manquent pas les emprunts faits par des écrivains à des confrères du futur. Certaines similitudes étranges entre des textes séparés par des années ou des siècles ne peuvent en effet s'expliquer par le seul hasard ou par les formes classiques de plagiat. Il est clair, pour des raisons que j'expliquerai en détail dans ce livre, que c'est dans l'autre sens que s'est alors effectué l'emprunt. Or, si l'on admet que la notion de plagiat doit s'entendre dans les deux sens, c'est un nombre considérable de comportements discutables qu'il est légitime d'espérer mettre au jour, puisque l'on peut raisonnablement estimer qu'une bonne moitié des ressemblances injustifiées entre les œuvres est à porter au compte de cette pratique. Pourquoi alors, si cette hypothèse se révèle juste, ne pas conférer au plagiat par anticipation un statut égal en dignité à celui dont bénéficie depuis longtemps le plagiat classique, et ne pas procéder, pour les auteurs passés aussi bien que présents, qui en ont été victimes, aux restitutions de paternité que tout vol d'idées appelle ? Donc justement, est-ce qu'on peut appliquer ça à divers ouvrages que vous avez lus ?
Hyperion, c'est juste une espèce d'intertextualité absolument incroyable, comme tu l'as montré dans ta présentation. C'est le pavant du plagiat, c'est plus une espèce de volonté de prendre une multiplicité de sources culturelles de toutes les époques et de les rassembler dans le futur, vu que c'est un bouquin prospectif.
Et je sais que dans d'autres livres de Dan Simmons, il y a ça. En général, il s'inspire à la fois de l'époque antique et à la fois d'une espèce de futur, littérature d'anticipation qui contraste beaucoup, et il mélange les deux.
Exactement. Puis il y a beaucoup de sources bibliques, surtout dans ce tome-là en particulier, puisqu'il y a toute l'histoire du sacrifice d'Abraham. Et finalement, le personnage de Rachel qui devient un peu une espèce de point où se recoupent toutes ces problématiques temporelles, puisqu'elle a cette espèce de Benjamin Button, je sais pas comment on appelle sa maladie, la maladie de Merlin, ils appellent ça. Donc il y a une espèce de où elle vit à rebours. Donc au fur et à mesure que le livre avance, on a ce personnage qui diminue et ça brouille vraiment notre perception de la chronologie et du déroulement de l'intrigue, et c'est assez intéressant.
Ça revient un petit peu, peut-être plus dans la SF, justement cette idée de brouiller la temporalité, notamment dans La Horde du Contrevent. C'est pas vraiment la temporalité, mais c'est vrai qu'on avance quand même à rebours puisque la pagination est faite à l'envers. On commence à la page 703 puis on remonte vers la page 0. En fait, du coup, ce qui est assez drôle, c'est que ça se fait toujours avec une espèce de complicité entre on va dire l'auteur et le lecteur, puisque quand c'est la pagination qui est faite à l'envers, c'est très clair, c'est bien marqué. Ou même dans Hyperion, justement, cette maladie de Merlin, le lecteur l'aperçoit. Et justement, dans le livre de Martin Amis, le narrateur voit l'histoire à rebours, mais en fait, le personnage vit l'histoire dans le sens chronologique. Donc en fait, c'est une espèce de jeu, puisque le personnage en tant que tel est conscient, son idéologie nazie, etc. Mais c'est le narrateur qui ne perçoit pas ce passage à rebours, en fait.
Ouais. Ça se voit dans le passage que je viens de lire. Le narrateur, que certains appellent Saul, donc l'âme de Todd, le médecin, Saul, lui, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le début du livre, il dit c'est bizarre, les gens marchent à l'envers, comment ça se fait qu'ils lisent à l'envers, il y a quelque chose qui a l'air étrange. Alors que pour Todd, le médecin, il n'y a rien de dérangeant. Je pense qu'il y a cette idée aussi que faire se rendre compte au lecteur, que ce qu'on perçoit comme banal et évident ne va pas du tout de soi. Je pense que c'est un petit peu l'objet du bouquin. C'est la théorie de la défamiliarisation.
Oui, parce que quand on dit que c'est dérangeant comme livre, ça nous raconte une histoire qui est extrêmement connue, qui est extrêmement dérangeante, mais qui est connue, l'histoire des camps nazis. Et le fait de la raconter dans l'autre sens, c'est limite, il y a une espèce de répulsion, ça réanime en nous ce sentiment qu'on a la première fois qu'on découvre cette histoire. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien, l'inversion.
Oui, c'est par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a une espèce de coopération entre guillemets entre l'auteur et le lecteur. Ce qui est hyper puissant chez Amy, c'est il le dit lui-même, c'est que finalement, c'est le lecteur qui apporte toute la tragédie. C'est le lecteur qui vient avec sa connaissance préalable de tout ce qui va se passer, ou de tout ce qui s'est passé. Les temporalités, elles sont inversées pour les deux personnages et pour le lecteur lui-même qui peut tout remettre dans l'ordre.
En fait, oui, c'est une espèce de puzzle temporel, en quelque sorte, qui peut provoquer justement cette espèce d'étonnement, comme l'étonnement qui saisit Alice quand elle voit la Reine Blanche. Et c'est ce qui peut aussi provoquer cette espèce de sensation de. Justement, cette défamiliarisation, cette sensation d'absurde, notamment chez Michaud. Enfin, si j'ai bien compris, tout Plume, en fait, c'est une succession d'aventures un peu absurdes. Au personnage Plume.
Complètement absurde. Ouais. Il a mal au pouce, il va rentrer chez le médecin, on va lui suggérer de l'amputer, des choses comme ça. Oui, il y a un côté Lewis Carroll, juste absurde. Les choses se passent comme ça. Au lecteur, démerde-toi. Alors que peut-être que dans d'autres, les œuvres Amis, peut-être avec les palindromes que tu joues sur le fait que le lecteur va comprendre ce qui se passe, qu'il est conscient du procédé. Alors que dans le nonsense et dans des trucs un peu absurdes comme ça, c'est plus genre vraiment s'immerger dans le moment et dans le jeu de l'inversion des temporalités.
Mais oui, je pense juste que Michaud, il a écrit aussi des livres qui sont des récits de voyages fictifs où il va dans des pays où tout se va, dont il ne connaît pas les règles. Et ça me rappelle un peu plutôt les voyages de Jonathan Swift.
Mais si on suit la théorie de Pierre Bayard, c'est peut-être Jonathan Swift qui s'est inspiré dans Michaud.
Tout à fait, mais je pense
que c'est ma conviction personnelle.
Horriblement.
Carrément.
Peut-être que les deux, c'est la même personne.
Et Martin Amis. Oui, la même personne en plus.
Moi, je pense que c'est la même personne qui survit parmi les
Et à présent, cher lecteur, pour ton plus grand plaisir, nous allons commencer cette discussion menée par William.
Thank you. À l'instant, Jack Sparrow vous faisait passer cul par-dessus tête, main sous l'eau et coq en l'air sur l'air de Up Is Down composé par Hans Zimmer. Il y a des mots qu'on lit sans les voir et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. D'autant plus insolites que le démon de la subversion intervient ici encore. Ce n'est donc pas Caroline qui prend le micro, mais Camille.
Alors, aux antipodes de la littérature, il y a la science d'abord. On va faire un petit mix science-culture populaire. On va parler du moonwalk. Bon, déjà, il n'a pas été inventé par Michael Jackson. Il aurait été introduit par Jeffrey Daniels, danseur du groupe Shalamar, bien avant. Et pourquoi je parle de science ? C'est parce qu'on a découvert assez récemment, chez le mannequin à cuisse jeune, ou Pipra mentalis, un oiseau de la famille des Pipridés, que le mâle réalise une parade nuptiale très proche du moonwalk. Donc messieurs, je vous invite à vous entraîner. Alors ce bruit étrange que vous venez d'entendre, n'est-ce pas chers auditeurs ? C'est le bruit du TARDIS. Pour les fans du Docteur Who, c'est une machine à voyager dans le temps et dans l'espace. Et donc le bruit du TARDIS, donc non seulement c'est une machine qui vous fait voyager dans tous les sens, mais ce bruit lui-même est un bruit inversé, puisqu'il a été créé par Brian Hodgson, en faisant glisser des clés de maison le long des cordes d'un vieux piano. Le son obtenu a ensuite été enregistré, passé à l'envers et traité électroniquement pour obtenir ce bruit étrange. On va progressivement se rapprocher de la littérature dans ces lectures insolites. Est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un livre à l'envers ? Parce qu'il y a une maison d'édition pour enfants qui propose une collection, donc c'est Folio Junior Édition. Donc vous prenez votre livre et vous retournez et vous avez un quatrième de couverture inversé qui vous dit « Et si c'était par la fin que tout commençait ?» et suit une série de jeux. Donc là actuellement j'ai dans les mains un livre de Le Clésio qui s'appelle Lulabi, que je vous invite à lire, qui est un très beau livre. Et donc si vous le retournez, si vous commencez par la fin, vous avez donc en particulier un exercice d'écriture qui est proposé aux jeunes lecteurs. Puisque dans ce roman, on a un moment très, très poétique où Lulabi écrit à son père et elle commence sa lettre par la fin. Donc elle signe, elle écrit la forme de politesse, elle écrit au milieu, elle écrit ensuite le début. Et ensuite elle remplit progressivement tous les trous pour qu'il n'y ait plus aucun blanc sur la page. Et on propose au lecteur d'écrire à un ami en commençant par le dernier paragraphe et de remonter petit à petit le fil de sa pensée. Et donc on va finir notre remontée du temps chez les latins. On va finir cette inversion par une dernière volte-face et je vais vous parler du carré magique. C'est le carré de Sator, dont on peut voir une magnifique inscription sur une des tables de l'ENS. Cherchez, cherchez.
Sator aripotenet opera rotas.
Merci bien. Ce carré figure dans plusieurs inscriptions et la plus ancienne remonte à l'an 791. Alors le principe, c'est que les lettres de la phrase sont inscrites dans un carré de 5 cases sur 5, de telle façon qu'elles puissent être lues de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche. Et la lecture est rendue possible horizontalement et verticalement parce que chacun des termes de la phrase est à la fois un acrostiche, c'est aussi un mésostiche, donc c'est la même chose mais au milieu d'un poème, et un télestiche, c'est la même chose mais avec la fin des vers. Voilà, et il faut noter que le changement de l'ordre de la lecture n'altère en aucun cas le sens de la phrase du point de vue grammatical.
Bienvenue chers auditeurs, cette 10e émission de Lésion des oreilles va commencer et nous allons tout retourner. Préparez-vous à une expérience auditive plus spectaculaire que Gravity avec Sandra Bullock. Le thème est à l'envers et l'on va vous régaler de lecture dans tous les sens. Si l'on considère que l'auto-proclamée mégalomane Caroline est Picsou et que Camille est Donald, eh bien je suis mystique. Oui oui, on renverse même les sexes, subversion of the genre. Et armé d'une baguette magique, je détourne les lois de la gravité. Clin d'œil au canard sauvage de la bande dessinée pour ceux qui lisent ou lisaient Super Picsou Géant. Nous avons cette semaine un invité, Laurent, angliciste revenu vivant de l'agrégation. Oui oui, ça existe. Une fois n'est pas coutume, je vais vous lire le t-shirt du jour au début de l'émission. Mis à l'envers, j'ai réussi à déchiffrer Jake the Snake.
C'est un grand catcheur.
Un grand catcheur américain. Qui venait avec un serpent. Comme quoi le non-sens anglais n'a pas de limite. Merci Robin pour avoir enregistré cette émission à l'envers avec courage. Avant de commencer, je vous demande de bien attacher vos ceintures. J'espère que vous avez pris un repas léger. La fusée va décoller. Alors, on aurait pu faire dans le cliché total et vous faire entendre en apesanteur, mais le but du jeu, c'est de vous surprendre. En virgule d'ouverture, donc, trio, désolé pour hier, et en guise d'inkipit, celui de la recherche, de l'ignoble et infâme et honteux méchant Pabo Proust, lu par moi-même avec toutes les plus mauvaises intentions du monde. Parce que l'on ne pouvait pas faire une émission à l'envers sans parler verlan, et depuis que mon auteur détesté est tombé au programme de l'agrégation, je ne raterai pas une occasion de le bafouer. Yo yo, c'est Proust qui te déchire la teuté. Temps long, je me suis chez coup de bonheur. Fois part, à neuper ma gibou éteinte, mes yeux se fermaient si te vie que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la sépant qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais épauler le volume que je croyais avoir dans les mains et flé sous ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire d'action refle sur ce que je venais de lire. Mes sections refle avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait la Jouvre. Une Lisègue, un Tourquois, la rivalité de Soifranc Ier et de Quincharles. Cette science croix survivait pendant quelques secondes à mon veilleré. Elle ne choquait pas ma zonrée, mais pesait comme des caïsés sur mes yeux et les empêchait de se rendre teucon que le joueur bout n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose des sépans d'une tensexie terriorant. Le Jésus du vreli se détachait de moi, j'étais breli de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, ce doux et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus courant pour mon prithès, à qui elle apparaissait comme une zecho sans zeco, incompréhensible, comme une zecho vraiment obscure.
Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers,
la tête dans le cul, cul dans le brouillard,
les gars, désolé pour hier,
désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers.